Chapitre 19, versets 1 à 9, Élie devant Jézabel et devant lui-même. Il est inutile de remarquer, en commençant ce chapitre, que si les hommes de Dieu ou leurs actions nous servent de type dans la parole, cela ne veut pas dire que ces hommes aient compris le sens caché de leur vie ou de leurs actes. Sans sortir de l'histoire d'Élie, nous avons déjà fait remarquer que, dans l'évangile de Luc, le Seigneur donne à sa mission auprès de la veuve de Sarepta une autre portée que le récit de notre livre. Le feu du ciel tombant sur l'Holocauste en est une preuve. Élie ne pouvait voir dans ce fait ni la croix, ni la crucifixion avec Christ, chose devenue si claire pour nous à la lumière de l'Évangile. De fait, Élie était avant tout, comme homme de Dieu, un prophète du jugement, et, quant à ses expériences personnelles, ce n'est que dans notre chapitre qu'il porte ses yeux, sous l'enseignement divin, au-delà de la scène du jugement, vers la région élevée et sereine dans laquelle Dieu trouve ses délices, se fait connaître et se révèle dans la plénitude de son caractère. Cette remarque nous aide à comprendre la scène qui va se dérouler devant nous. Après la destruction totale des prophètes de Baal, et le récit qu'Akab en fait à Jézabel, celle-ci jure par ses faux dieux de se venger d'Élie dans les 24 heures et le lui fait savoir. Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sa vie. Versets 1 à 3. Il fuit devant une femme, lui qui avait été à la rencontre d'Akab et avait tenu tête aux 450 prophètes de Baal. Cette attitude si opposée à la précédente provenait de ce qu'en ce moment, Élie avait oublié la source de sa force. Il ne pouvait plus dire « l'Éternel devant qui je me tiens ». Il se trouvait devant Jézabel et non devant l'Éternel. Et la chose est si vraie qu'il va être obligé de marcher 40 jours et 40 nuits pour se retrouver devant Dieu. Du moment que le fidèle laisse un objet quelconque s'interposer entre son âme et Dieu, l'éloignement prend aussitôt des proportions incalculables. La conséquence nécessaire de cet éloignement est que le prophète perd toute sa force, car on ne la trouve que devant Dieu. Tu as caché ta face, j'ai été épouvanté. Élie, instrument tout à fait remarquable de la puissance de l'Éternel, n'avait pas réalisé dans la même mesure qu'en lui-même il n'y avait ni bien, ni lumière, ni force. Il faut qu'il fasse cette expérience, et Dieu l'y conduit en le laissant, avec ses propres ressources, devant la puissance de l'adversaire. Lui qui faisait annoncer à Akab « Voici Élie », s'enfuit pour sauver sa vie devant une simple menace de Jézabel. De Jizréel, il passe sur le territoire de Juda, où la reine ne pouvait plus l'atteindre, continue sa course jusqu'à Beersheba, extrême limite de Juda vers le désert, il laisse son serviteur et, non content de cette fuite, s'en va dans le désert même, le chemin d'un jour. Là, il s'assit sous un genêt, et il demanda la mort pour son âme, et dit « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Verset 4. C'est le découragement complet qui va jusqu'au désir d'en finir avec la vie. Pourquoi donc? Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le prophète avait donc pensé, ne fût-ce qu'un moment, qu'il était meilleur que ses pères, et que Dieu le soutenait dans le combat à cause de cette excellence? Pauvre prophète! Sans force devant Jézabel, absolument découragé devant lui-même, lui qui avait cru pouvoir édifier quelque chose sur ce fondement de sable. Mais pour que cet homme de Dieu soit entièrement délivré du moi, l'Éternel va lui faire entreprendre un long voyage, au bout duquel il rencontrera le Dieu de la loi en Horeb. Combien de leçons cette scène ne contient-elle pas pour nous? Nous pouvons avoir été employés au service de Dieu et cependant ne connaître celui-ci que très imparfaitement. Puis, un temps de bénédiction spéciale précède souvent une période de grande faiblesse spirituelle, parce que Satan, toujours aux aguets, nous fait trouver, dans les bénédictions mêmes, une occasion de nous enorgueillir et d'exalter notre chair. Telle est, en partie, la cause de la discipline d'Élie, telle était celle de l'apôtre, bien que seulement préventive, après qu'il fut monté au troisième ciel. Remarquons encore que Satan nous attaque du côté que nous gardons le moins parce qu'il nous semble le moins vulnérable. Était-il probable de voir fuir devant une simple menace un homme dont le courage avait tenu tête à tout un peuple? Il s'en alla, lui, dans le désert. Quelle bénédiction quand le Seigneur nous y conduit pour y faire l'expérience des ressources infinies qui sont en lui. Quelle chose humiliante, salutaire aussi, quand notre propre volonté nous y mène et que nous y sommes pour apprendre ce qu'il y a dans nos cœurs. Tel est le cas d'Élie. Il se couche et dort sous le genêt. Il abandonnait, pour ainsi dire, sa mission au moment où des faits éclatants en avaient démontré la réalité, mais il lui fallait apprendre que sa vie intérieure n'était pas soutenue par la foi, comme l'avait été son témoignage extérieur. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Verset 5. Au chapitre 17, c'était lui, Élie, qui dispensait la nourriture à d'autres, après avoir été nourri lui-même. Ici, où son manque de foi l'a poussé, il est sans nourriture aucune. Mais Dieu ne l'abandonne pas et pense à lui. La seule force qui puisse lui venir lui vient de la nourriture que Dieu lui a préparée. Il trouve à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mange, mais ne comprend pas ce que Dieu lui veut, et se rendort. Une seconde fois, il trouve la même nourriture, et l'ange lui dit « Mange, car le chemin est trop long pour toi. » Verset 7. Dieu le nourrissait pour le faire marcher. Leçon importante pour nous. L'Éternel l'avait nourri au Kérit et à Sarepta, afin qu'il pût rendre un puissant témoignage. Mais si la nourriture divine ne nous communique pas des forces pour nous-mêmes, le but de Dieu serait-il atteint? Cette nourriture trouvée par Élie à son chevet a une puissance miraculeuse. N'en est-il pas ainsi de la parole de Dieu? Elle nous amène jusqu'à la montagne de Dieu. C'est ainsi qu'en jugeait l'apôtre, parlant aux anciens d'Éphèse. « Je vous recommande à la parole de sa grâce qui a la puissance de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. » Acte 20, verset 32. Élie alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Verset 8. Avec elle, on marche et on ne se lasse point. Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits en Horeb, s'entretenant avec Dieu. Sa parole et sa présence avaient suffi pour soutenir les forces de son serviteur. Le Seigneur, lui, passe 40 jours et 40 nuits dans le désert sans aucune nourriture, en présence de bêtes sauvages et en butte aux assauts de Satan. Il a faim et ne trouve rien à son chevet pour le faire résister aux tentations de l'ennemi. Mais il est l'homme qui ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La simple dépendance de cette parole le nourrit, est sa force et lui donne la victoire au milieu de circonstances inouïes que lui seul pouvait surmonter. Versets 9 à 21. Élie devant Dieu. Élie arrive à Horeb, la montagne de Dieu, et entre dans la caverne, au même lieu, sans doute, où l'Éternel avait caché Moïse. Exode 33. Le prophète ne savait pas où Dieu voulait l'amener. Il n'avait pas l'intention de se rendre à Horeb en s'enfuyant le chemin d'un jour dans le désert. Mais quand il arrive à la caverne, ce n'est pas avec les sentiments du cœur de Moïse à l'égard du peuple coupable, d'un cœur qui, malgré toute cette iniquité, battait pour le peuple de Dieu, « Efface-moi de ton livre que tu as écrit », Exode 32, verset 32, disait le législateur prêt à subir l'anathème pour sauver Israël. « Considère que cette nation est ton peuple », Exode 33, verset 13, disait-il encore en intercédant pour elle. Ce même Moïse qui proclamait le Dieu de la loi faisait appel aux compassions du Dieu de la grâce envers ceux qu'il avait offensés. Mais Élie n'avait pas encore appris la leçon que Dieu voulait lui enseigner. La parole de l'Éternel vint à lui et lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Verset 10. Alors, Dieu lui enseigne ce que Moïse avait désiré connaître quand il avait dit « Fais-moi voir ta gloire ». Il fait passer d'abord devant le prophète les diverses manifestations de sa puissance et de ses jugements. Élie les connaissait bien. Il avait assisté au vent d'orage qui avait précédé la pluie, chapitre 18, verset 45. À sa parole, le feu du ciel était tombé en présence de tout le peuple, chapitre 18, verset 38. Et ces mêmes phénomènes s'étaient produits jadis sur cette même montagne d'où Dieu avait donné la loi. La montagne avait aussi tremblé. Il y avait eu des tonnerres et des éclairs et des flammes. Mais, quelle leçon pour Élie ! L'Éternel n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Toute la vie du plus puissant des prophètes aurait pu s'écouler sans qu'il connût réellement Dieu. Élie entend une voix douce et subtile, versets 12 et 13. Il comprend alors que c'est une chose nouvelle qui dépasse le cercle de ses expériences et, le visage enveloppé de son manteau de prophète, il se tient à l'entrée de la caverne. Cette voix douce et subtile était celle de la grâce. C'est par elle que Dieu s'est révélé dans la plénitude de son être à de pauvres pécheurs comme nous. Le Dieu qui se révèle ainsi renouvelle sa question au prophète pour le sonder à fond. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie fait la même réponse, verset 14, voire verset 12. Il avait eu le temps de réfléchir. Il montre à nu ce qu'il y a dans son cœur. À qui donne-t-il le beau rôle ? À lui-même. « J'ai été très jaloux pour l'Éternel. Je suis resté moi seul. Il cherche ma vie. » Qui accuse-t-il ? Le peuple de Dieu. « Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Ils cherchent ma vie. » C'est en un mot une accusation en règle, un plaidoyer contre Israël et un panégyrique d'Élie. « Ne savez-vous pas, dit l'apôtre, ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie, comment il fait requête à Dieu contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. » Mais que lui dit la réponse divine ? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Ainsi donc, aux temps actuels aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Romains 11, versets 3 à 5 et verset 2. Élie était venu faire requête contre Israël. En accusant le peuple et en se justifiant, il montrait son ignorance de la grâce et de lui-même. Comment donc ? Il paraissait devant le Dieu de grâce pour jouer le rôle d'accusateur et plaider pour le jugement. Mais que lui dit la réponse divine ? D'abord que la vengeance sera exécutée. À Élie échoit la triste mission d'en préparer les instruments, Azaël et Jéhu. En second lieu, l'administration prophétique est ôtée à Élie et il doit oindre Élisée comme prophète à sa place. Lui qui disait « Je suis resté moi seul » doit apprendre que Dieu choisit, forme ou destitue ses instruments comme il lui convient. Voici donc Élie jugé à fond. Il ne dira plus « Prends ma vie car je ne suis pas meilleur que mes pères ». Il lui faudra vivre tout en étant le témoin d'un autre ministère qu'il devra reconnaître, étant employé de Dieu pour le former. En troisième lieu, et c'est le grand point de la réponse divine, « Je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont point baisé. » Verset 18. Il y avait donc un résidu selon l'élection de grâce, connu de Dieu, sans qu'Élie en sût rien. La voix douce, subtile, était encore entendue dans ces jours d'apostasie, et c'était en ce faible résidu que Dieu trouvait son plaisir. Élie accepte cette leçon humiliante. Il se soumet lorsque pour la quatrième fois Dieu lui dit « Va ». Voir chapitre 17, verset 3, 9, chapitre 18, verset 1. Il retourne par le chemin d'où il était venu, verset 15. Il trouve Élisée, fils de Shaphat, et jette sur lui son manteau, signe d'identification prophétique. S'il s'était tenu à la lettre de la parole de Dieu, il aurait dû commencer par oindre Azaël et Jéhu, voir versets 15 et 16. Mais il se hâte d'accomplir l'acte qui l'annihile, lui le grand prophète, en cédant son autorité à un autre. Il montre ainsi, lui qui avait dit « Je suis resté moi seul », que désormais il n'est rien à ses propres yeux. Quant à Hazaël et à Jéhu, ce n'est pas Élie, mais Élisée qui les oindra. Il renonce à ce qui aurait pu le mettre en relief et laisse l'œuvre s'accomplir par un autre que lui. Élisée abandonne ses bœufs et court après Élie. « Va, retourne, lui répond le prophète, se servant des mêmes paroles qu'il avait entendues de la bouche de l'Éternel. » Verset 15. À ses propres yeux, il n'était rien désormais. Et ce n'était pas le moment d'engager Élisée à le suivre. « Que t'ai-je fait ?» Élie ne lui jetait pas son manteau pour l'attirer après lui, mais pour qu'il fût prophète à sa place. Quel bel exemple d'humilité, de jugement de soi-même, de désintéressement, d'obéissance, de confiance en la parole, cet homme de Dieu nous donne ici. Comme la discipline a produit chez lui des fruits rapides. Ne peut-on pas dire que l'humiliation d'Élie glorifie Dieu davantage que toute la puissance du prophète ? Sa carrière est brisée en apparence, mais une nouvelle carrière, ayant son point de départ dans la discipline, va s'ouvrir devant lui. Et si la première n'a pas abouti, la seconde ne se terminera que dans la gloire. Puissions-nous tous, dans le brisement de nous-mêmes, suivre l'exemple d'Élie pour glorifier le Seigneur.